9h, dans le bureau de Par Jupiter.
Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous faire deviner par mime qui est l'invité.
Ouais, le mime,
cette activité au cœur de l'exercice radiophonique.
Et celui ou celle qui trouve aura une récompense.
Super, là on est vraiment au cœur du réflexe capitaliste.
Mais par pitié, tais-toi pour une fois et regarde ce que fait Charline.
Regarde.
Là, elle agite trois doigts, je crois.
Alors ça veut dire que c'est en trois mots. Ok, vas-y, Charline, pour le premier mot.
Alors regarde.
Elle mange une glace. Quelqu'un dont le métier, c'est d'être en vacances. Jean-Michel Blanquer.
Non.
Eh oui, non, regarde, elle ne lèche pas. C'est un micro, c'est un chanteur.
Voilà, donc alors, ensuite, regarde.
Elle montre sa tête, zinzin, c'est un chanteur, Maboule. Un chanteur fou, il y en a plein, ça. Iggy Pop, Marilyn Manson.
Non, c'est pas fou, c'est là, regarde-moi, merde, là, regarde.
Oui, c'est la tête, la tête qu'elle montre, la sienne, la mienne, la tête, les têtes.
Voilà, chanteur et tête. Ok, on est bon.
Et après,
regarde, hop.
Je sais, ivre.
Mais pourquoi elle fait la moulinette avec ses mains là?
Eh ben, ça veut dire que c'est ça, mais que c'est un autre mot. Mais t'es nul en jeu de mime, toi.
C'est rapport au fait que notre métier, c'est la radio, quand même.
Alors attends, je propose bourré.
Non.
Sous.
Non.
Cuit alors. Aviné.
Non,
non. Pompette.
Non,
pas,
non. Cris. Schlass. Plein. Passe. Noir.
Allez, ça suffit la récré là. C'est pas possible. Je vous donne le dernier mot, c'est raide.
D'où c'est un synonyme de ivre.
Alors attends, chanteur, tête, raide. C'est chanteur de tête raide.
Voilà, je tu es vraiment la plus fine lame du royaume.
Oui. Avec en plan.
Allez, au boulot.
Ouf. Allez, couchez. Couchez. Non, hein.
Bonjour la France Inter et bienvenue au chenil. Donc, de la petite blague, voici la devise. Un seul être vous manque. Et c'est Anne-Sophie Lapix. Voici le sommaire. Toute l'année, le système médiatique accompagne la dédiabolisation de l'extrême droite. Et puis pendant 15 jours, tous les 5 ans, hop, on rediabolise, on fait barrage, on tend le cordon. Ce qui n'empêche pas Marine Le Pen de choisir les journalistes qui peuvent la suivre ou l'interviewer. Donc quid d'Anne-Sophie.
Et moi alors, qu'est-ce que je deviens?
Tu fais tapisserie.
Pour tenter de comprendre ce que fait et veut Poutine, on a entendu des experts géostratégiques, des militaires, des économistes et on a même entendu des voyants. Et si à présent, on écoutait un traducteur fameux de l'œuvre de Dostoïevski et des poètes révolutionnaires russes? Pourquoi? Parce que...
Mais la police n'en a rien à foutre de vos képis de gendarmes et de vos ceintures en peau de vache.
Le sosie du président Zelensky a réussi à fuir l'Ukraine grâce au sosie de Vladimir Poutine, mais aussi au sosie de Kim Jong-un. Ils ne s'étaient jamais rencontrés, mais ils ont participé au même documentaire sur les sosies politiques qui a créé entre eux une belle, je dirais, sosilarité.
Toi, tu te prends pour un clo-clo? Mais tu ressembles à Patrick Juvet, pauvre tâche.
Alors, pas chez tous, je n'ai pas généralisé. À mes côtés aujourd'hui, Juliette Arnaud, bonjour.
Sosie de Vanessa Paradis.
Et de Michel Polnareff.
C'est moins gentil.
Michel Polnareff. Bonsoir, Charline. Et en l'honneur de notre invité...
Je ne continuerai pas tant que vous n'aurez pas cessé de rire bêtement. Ça risque de prendre un certain temps. En l'honneur de notre invité, disais-je, évidemment, une équipe de punk avec d'abord le pape des punks de Par Jupiter. Il en a la coupe de cheveux, la rage et la routine beauté puisqu'il ne se lave les dents qu'à la 8-6. Bonjour.
Bonjour.
De quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'ai fait une chronique sur l'actualité.
Oui. C'est vraiment très surprenant. Le suivant est la version bière sans alcool du punk. Oui, je sais, ce concept est sacrilège. Il va dans la rue, il l'arpente et même donne à entendre la voix de la rue, sauf qu'il ramène plus celle de monsieur et madame Thénardier que celle de Gavroche. Bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour Juliette Arnaud. Je vais vous parler écologie aujourd'hui, notamment de la place de l'écologie dans les programmes de Le Pen et Macron, que les gens connaissent par cœur. Alors là,
je sais pas. Ça, c'est un... Non, je suis pas. Je sais pas.
Après, les trous de mémoire, ça arrive aussi.
Bien sûr, surtout quand on vieillit. Dans la famille punk, il appartient à la branche Calimero et on va pas se voler les hérissons entre gitans, c'est pas la branche la plus connue, mais méfions-nous de l'eau qui dort. Léo Carman, criez pour voir.
La vie est vraiment trop injuste.
Ouais, bon, il débute en punk. Léo, de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui?
On va être 100% punk et rebelle aujourd'hui, parce que je vais vous parler d'une série déjà, et une série qu'on peut regarder gratos en plus, donc merci d'avoir d'avance.
Et voici celui qui nous accompagne jusqu'à 18h. Je vous laisse annoncer à nos auditeurs que vous êtes là et que vous êtes
Christian Olivier. Yes.
Allez,
France Inter, Charline Vanhoenacker, Juliette Arnaud.
par Jupiter.
Bienvenue Christian Olivier.
Merci.
Vous êtes en tournée avec les têtes raides.
Ouais. Et d'ailleurs, juste un petit détail, pour le mime, il lui fallu mettre deux doigts plutôt que trois. Puisque on dit, en fait, le groupe s'appelle Tête Raide, donc c'est pour ça peut-être que vous n'avez pas trouvé en fait. C'est Tête Raide tout court.
Oui,
donc,
mais c'était chanteur, tête et raide.
Ouais.
Ah. Ouais. Enfin, j'ai entendu les Tête Raide. Enfin voilà, c'est un petit détail. Mais pour le mime deux doigts, je pense que ça aurait mieux marché.
Ouais, c'est pour ça que j'ai pas trouvé.
Vous voulez pas du whisky avant?
Ah, si on a, pourquoi pas.
On va y aller, je pense. En tournée avec Tête Raide et le 15e album Bing Bang Boom. Plus de 30 ans de carrière. Là, on est exactement à combien?
Oh bah un petit peu. On a passé parce qu'avec les histoires de Covid etc. On devait fêter les 30 ans de Ginette il y a 2 ans. Uh-huh. Donc voilà, Ginette a 32 ans aujourd'hui.
Ah bah Ginette qui a 32 ans, on va l'écouter dans quelques minutes. Donc je disais, tournée avec ce 15e album. Quel ton donne cet album à vos concerts actuellement?
Bah en fait, on a démarré les concerts d'abord par ces 30 ans de Ginette et puis ensuite on a sorti le Bing Bang Boom donc. Uh-huh. Et il y a un nouveau son, pour moi, il y a un nouveau son, une écriture peut-être un tout petit peu resserrée, un petit peu. Voilà, ça reste du Tête Raide, puisqu'il y a une palette d'instruments toujours importante. Mais je crois qu'il y a quelque chose, et puis il y a quelque chose qui s'est passé sur cet album, c'est qu'on a eu une collaboratrice très importante qui s'appelle Edith Fambuena, qui a travaillé sur Bachung, qui travaille sur Dao, tout un tas de gens. Et du coup, au niveau des sonorités, en tout cas de l'album Bing Bang Boom, il y a quelque chose qui a évolué dans Tête Raide, quoi. Puis c'est toujours une nouvelle aventure quand on sort un album. Je dirais que on ouvre les fenêtres grandes ouvertes et puis on laisse partir.
Et on découvre ce que ça donne. Vous découvrez au début ce que ça donne devant le public et comment le public réagit. Et vous jouez 2h30.
Ouais.
Ouais. Donc plus il y a d'albums, plus les concerts s'allongent.
Ouais. Puis ça maintient la santé, quoi. Voilà, quoi. C'est ça.
Qui s'épuise en premier, vous ou le public?
Ça dépend des soirs. C'est des matchs un petit peu, mais.
Ah, c'est vrai.
Mais en général, on.
Ça se renvoie la balle. Voilà. C'est-à-dire si le public est.
Et puis à la troisième mi-temps chaud, aussi. Ouais.
Mais ça peut durer plus longtemps.
Est-ce que c'est un truc que vous recherchez ça dans les concerts, l'idée du point de rupture, mais y compris physique, enfin pousser le truc.
Le concert, de toute façon, c'est on transcende quelque chose. Donc l'état physique et à la fois même quand on est fatigué avant de démarrer un concert ou qu'on n'est pas bien, en fait ça n'existe plus. À partir du moment où on met le pied sur scène, et je dirais dans cette période où on a eu cette pause, etc. Aujourd'hui, c'est redevenu quelque chose pour moi de vraiment, je vais peut-être des guillemets à ça, mais sacré de mettre le pied sur scène aujourd'hui. Et donc il y a plus que ça qui existe, quoi. Tout d'un coup. On n'est plus fatigué, on est ailleurs, on est transporté avec bien entendu le public qui est là. Et, à un endroit, c'est en ça où je dis que c'est bon pour la santé, quoi.
Autre proposition artistique, c'est votre livre La Révolution au cœur, qui est paru au mois de novembre 2021. Juliette Arnaud, évidemment, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure parce qu'on a un sujet qui a trait à ce livre, mais on peut.
Oui, donc ça s'appelle La Révolution au cœur et c'est au cœur d'une révolution, une révolution, celle de 1917 et celle que vous appelez de vos vœux et qui passera par la poésie, selon vous, dans ce livre, par un livre un peu magique qui tombait du sac d'une femme va se retrouver dans les mains d'un homme, et puis le livre va s'évader, semer le goût de la révolte autour de lui, jusqu'à être poursuivi et emprisonné par les autorités. Dedans, c'est serti d'un certain nombre de poètes russes de la génération qui étaient adultes en 1917, dont Boris Pasternak, que tout le monde connaît exclusivement grâce à Docteur Jivago. Il y a une citation de lui que vous donnez, un vers de lui, qui est « La seule chose en notre pouvoir, c'est de ne pas fausser la voix qui résonne en nous. » Cette phrase-là, elle résonne comment en vous?
Pour moi, c'est quelque chose, si on reprend ses auteurs, puisque ce projet-là, c'est donc un livre, mais qui va devenir un album, puisque je mets tout ça en musique, et un spectacle après. Pour moi, c'est vraiment un écho aujourd'hui, en tout cas, tous ces auteurs que j'ai découvert pour certains, en tout cas, il y a une trentaine d'années. D'abord Mayakovsky, Bloch ensuite, Tsvetaeva ensuite. Et puis là, avec la rencontre de mon ami Markovitch, ce fameux traducteur, qui m'a ensuite aiguillé sur des auteurs que j'ai découverts.
Et qui vous a proposé de nouvelles traductions
également.
Voilà,
c'est ça. Et qui m'a aussi amené à traduire du russe, alors que je ne parle pas russe. Hein, donc ça, c'était quand même quelque chose, une histoire assez magique aussi. Je lui ai dit, je parle pas russe. Il me dit, je viens de traduire une anthologie chinoise et je parle pas chinois, donc tu vas bien pouvoir y arriver. Donc j'ai dit, ok, on y va. Mais c'était une expérience superbe, quoi. Et donc voilà, pour revenir à ces auteurs, c'est quelque chose qui résonne aujourd'hui énormément pour moi. Je trouve que ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont écrit, bien entendu.
Oui, parce qu'ils ont eu tous des fins de vie assez abominables.
C'est-à-dire ils ont tous fini soit sur le bord de la route à crever de faim, soit au goulag,
fusillés,
soit pendus à un arbre. Enfin voilà, quoi, c'est joyeux.
Voilà. Tête raide, oui. Il y a aussi, je dois dire, le graphisme, bien sûr, toujours avec votre
échappelé. Là, par contre, il y a l'échappelé, il y a les trois doigts là.
C'est vrai. D'accord. L'échappelé donc sur le livre. On écouterait Ginette qui a 32 ans.
Allez.
Allez. Oui. Bah, bien sûr. Tête raide, Ginette. Et Christian Olivier est avec nous jusqu'à 18h. On en profite.
La mer s'invente pas, et non crève à rester là. Et le funambule, beau qu'il est, marchant sur son fil, le Charlie Diesel Albatros, il est mort à marcher sur la terre. Mais c'est pas fini, on va continuer à voler dans les airs et les supermarchés. Pour nous donner l'air de ne pas rien faire et pour manger, on va s'aimer encore, là pendant des années. J'étais là, moi, monsieur. Et puis il y avait Ginette, qui valse sans guinguette, qui a toujours un verre d'avance, des fois qu'on ferme la dernière porte, c'est pour rêver, faire la fête. Il y a les musiciens sur les tréteaux. Tôt ou tard, ça va s'écrouler. Mais leur histoire, on s'en fout. On s'en fout. Oh! Il y a Ginette qui continue à tourner. Allez, Ginette. Allez, la belle.
France Inter, par Jupiter, et Christian Olivier est en notre compagnie, chanteur de Tête Raide. Juliette, bien. Pour l'entourer
bah des têtes bien faites, Émeric Lomprey, bien sûr, Léo Carman, et puis on a des têtes. Guillaume Meurice.
Elle est méchante.
Et un journal d'actualité, bien sûr.
Mes chers compatriotes,
Français,
voici qu'approche l'heure de votre décision.
Il y a eu un référendum en Crimée, la Crimée a été ukrainienne 26 ans, tout le reste du temps elle était russe.
Le journal de presque 17h17.
Moyen en histoire et géographie.
Réfléchissez pas, je vous l'affirme, c'est pas terrible, c'est nul, nul, archi nul, vous êtes zéro.
Et on commence par les titres.
On parlera du débat entre Gérald Darmanin et Jordan Bardella.
Ah ça y est, c'est les primaires de l'extrême droite.
Non, c'est un débat entre la droite et l'extrême droite.
C'est pas clair. C'est pas clair.
On parlera aussi de Jean-Christophe Cambadélis.
Mais comment vous pouvez avoir autant d'enthousiasme en disant Jean-Christophe Cambadélis? Ça me donne envie de crever, moi, quand vous dites ça, c'est pas vrai?
Donc on parlera sans transition de mal de tête.
Mais tu m'étonnes, Darmanin, Bardella, Cambadélis, ça va? Et un peu plus, je vous le mets quand même, comment ça se passe? Bon. Allez, on commence par la politique.
Oui, avec ce débat de haute tenue de voler entre Gérald Darmanin et Jordan Bardella hier sur BFM.
Vous savez, il y a un sketch de Cadmérade, c'est Jean-Michel à peu près. Là, c'est Jordan à peu près.
Oui, oui.
Bon.
Oui, bah vous, c'est pas Jean-Michel comptable, hein, excusez-moi.
Je me demande pourquoi l'abstention est si haute. C'est vrai, en tout cas, c'est pas lié à la qualité des débats, je pense.
Politique. Encore ce matin, l'invité de la matinale sur France Inter, c'était Franck Alizio, le porte-parole du RN.
Oh la chance, il était en face de vous. C'est oh, la chance.
Ouais.
C'est pas vrai, vous l'avez vu en vrai. Il est comment, Franck Alizio? Il est comment en vrai?
Il est comment? Ouais. Bah, raciste.
J'étais sûr, j'adore, j'adore.
Après l'évacuation musclée de l'élu écologiste Pauline Rapilly-Ferniaud de la conférence de presse de Marine Le Pen, la candidate a demandé des excuses.
Oui, j'ai vu les images avec Pauline Rapilly-Ferniaud a violemment attaqué le sol avec sa tête. C'est scandaleux. Dégradation.
Invitée sur BFM, la candidate du Rassemblement National a été interrogée sur le choix de son Premier ministre.
Encore une fois, je pense que personne ne vous annonce à l'avance qui est son Premier ministre. Ça n'est jamais...
C'était pas ma question.
Non, mais ça n'est jamais arrivé, donc ça n'arrivera pas plus aujourd'hui.
C'est beau autant d'assurance. Ouais. En tout cas, c'est pas elle qui aurait annoncé qui serait son Premier ministre en 2017.
Présidente de la République, je nommerai Nicolas Dupont-Aignan Premier ministre de la France.
C'est beau, hein, autant de cohérence. Hein.
De son côté, Emmanuel Macron était en déplacement à Strasbourg et il a croisé une femme voilée.
Avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg, qui dit « Est-ce que vous êtes féministe ?» C'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends.
C'est beau, hein, autant d'assurance. Hein. En tout cas, c'est pas lui qui aurait critiqué les femmes voilées en 2018.
Pourquoi cela nous insécurise, ce voile? C'est que ça n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays, c'est-à-dire au rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes dans notre pays. Nous sommes attachés à cette égalité entre l'homme et la femme.
C'est beau, hein, autant de cohérence. Hein, c'est beau.
D'ailleurs, le candidat Macron a annoncé hier qu'il voulait enrichir...
Bah, il est riche, évidemment, après la suppression de l'ISF,
c'est sûr. Non, Guillaume. Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait enrichir son projet avec celui de Yannick Jadot ou de Jean-Luc Mélenchon.
Pardon, j'avais oublié que pendant deux semaines, il est de gauche. Oui, l'étape d'après, c'est le Sarwell, le djembé et l'album de Tetraed.
D'ailleurs, en cas de réélection d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne est pressentie pour décrocher le poste de Premier ministre.
Ah, c'est vrai? Ouais. C'est excellent. Génial. Casting de malade.
Arrêtez, vous savez même pas qui c'est.
Bernadette Borne.
Elisabeth Borne.
Oui, Bernadette Borne, c'est la dame qui faisait les cafés.
On enchaîne politique toujours. Enfin, politique Parti Socialiste.
Hein, oui, bon, c'est pas pareil.
Jean-Christophe Cambadélis appelle le parti à s'auto-dissoudre.
Voilà. Alors, le vide peut-il dissoudre dans le néant? Vous avez 4 heures. Démerdez-vous avec ça.
Pour une majorité des Français, l'animal de compagnie est un membre de la famille à part entière.
Oui, c'est pour ça que Christophe Barbier a sa niche à l'intérieur de l'Élysée.
Voilà. Nouvelle technologie, à présent, un taxi autonome sans chauffeur tente de fuir un contrôle de police à San Francisco.
Alors à la réflexion, on se dit que c'est peut-être pas une bonne idée de baser l'intelligence artificielle sur celle de Benoît Magimel. C'est là que ça a merdé, je pense.
Et selon une étude norvégienne, plus de la moitié de l'humanité a mal à la tête au moins une fois dans l'année et 15% a mal à la tête tous les jours.
C'est dingue ça.
Ouais. Moi, c'est souvent le lundi et le jeudi, moi.
Lundi, jeudi. Ça tombe exactement les jours où je fais le journal avec vous.
Ouais.
C'est le hasard, ça.
C'est fou le hasard.
C'est incroyable.
C'est fou.
C'est pas lié.
Je me soigne et à lundi prochain. Merci Guillaume. Et avec Christian Olivier de Tetraed, on aborde ce premier thème. Le barrage républicain se relève soudainement après s'être endormi comme à chaque fois pendant 5 ans. Les systèmes politiques et médiatiques dédiabolisent Le Pen pendant 5 ans, sauf pendant 15 jours où il s'emploie à rediaboliser Fissa avant le second tour. Voilà, j'ai fait un mini édito, mais en ce moment j'ai l'impression que chacun y va du sien, non?
Dis-nous ce qui t'intéresse, puisque visiblement la question du fascisme t'ennuie.
La question du fascisme ne m'ennuie pas du tout, mais vous n'avez pas parlé de fascisme.
Ah bon? Et de quoi on a parlé alors?
Mais je veux dire que vous n'en avez pas parlé sérieusement. Bah enfin, vous vous amusez, vous faites semblant. Mais vous jouez un rôle, comme quand vous étiez petit.
On joue des rôles, nous.
Oui, comme on joue au policier ou à la marchande. Non, vous jouez avec les sujets de société comme avec des petites voitures. Alors avec quoi on va jouer ce soir? Le foulard islamique, le Vélib ou le droit de grève? Mais vous avez toujours fait ça. Vous avez déjà eu 50 fois ces disputes, vous croyez pas ce que vous dites. Alors moi, je trouve ça plutôt amusant, mais me prenez pas en arbitre.
Note bien, il nous trouve distrayant. C'est méprisant, mais sympathique.
Guillaume de Tonquédec et Patrick Bruel dans Le Prénom, réalisé par Alexandre Lapatelière et Mathieu Delaporte. Christian, Olivier, on dédiabolise toute l'année pendant 5 ans, et puis pendant 15 jours, il se Il se passe un autre truc avec lequel que vous regardez comment ces 15 jours.
Là, les 15 jours, je trouve que c'est, enfin, je sais pas s'il faut tout regarder en fait quoi. Faut surtout continuer à voilà.
Déprimé.
Déprimé, ça c'est une première chose, mais voilà, faut on a des idées de base. C'est pas parce que tout d'un coup il se passe ça qu'on doit complètement voilà changer d'opinion.
Vous, c'est toute l'année ce qui se passe pendant les 15 jours.
Bah moi c'est tous les jours quoi. Ouais. Donc je dirais qu'à un moment donné ça bouge pas ça. Donc après je dirais que ce combat là au moment de la première arrivée de Le Pen à l'époque, on avait monté tout un qui s'appelait le chaos social à l'époque, donc. On avait voilà fait tout un mouvement autour de ça, appelé ouais. bien entendu à faire barrage.
Mais la tournée qui a suivi le second tour Chirac-Le Pen,
voilà, c'est ça,
avait été qualifiée de rageuse. Bah, ça voulait dire quoi?
Bah, ça, je sais pas. En tout cas, à l'époque, bien entendu, ça a bougé beaucoup dans les rues. Ça a bougé. Il y avait comme voilà, mais aujourd'hui, je dirais que on se retrouve quand même dans la même situation. Aujourd'hui, à nouveau, c'est barrage sur barrage, donc c'est le barrage contre le Pacifique. Ça, c'est du ras, mais en tout cas, voilà, à un moment donné, le barrage. Mais en tout cas, voilà, je dirais que on peut juste constater l'histoire. Et comme dit, je reprendrai ce que dit Nouchkine, Ariane Nouchkine, c'est que à un moment donné, il y a des choses à ne pas essayer, quoi. Je dirais que. Donc voilà, ça s'arrête là, quoi.
Mmh. Vous pensez qu'il y a des gens qui ont perdu la rage de se battre contre ça ?
Je pense pas qu'ils ont perdu la rage, mais je dirais que la rage, elle se dirige ailleurs, enfin, d'une autre manière. Je dirais que ça passe par d'autres endroits, puisque c'est vrai que on est quand même, le politique a quand même perdu énormément en crédibilité depuis moultes années. Donc je dirais qu'aujourd'hui, les gens ont leur part de politique. Alors effectivement, c'est la présidentielle. Donc là, tout d'un coup, il se passe quand même un petit peu quelque chose.
Ce qui expliquerait, selon vous, la différence d'attitude entre l'époque Chirac Le Pen et aujourd'hui. Il y a la chanson La Tâche aussi sur l'album Les Terriens 2014.
Ouais, tout à fait. Mais bon, ça c'est aussi une voilà, je dirais que de toute façon on est quand même toujours en train de combattre cette chose-là. Et par contre c'est pas juste au moment des élections qu'il faut le combattre. Effectivement c'est là où peut-être que les gens se perdent un petit peu. Il y a des choses voilà qui reviennent dès qu'il y a des périodes troubles, des périodes compliquées. Ben, c'est des choses qui reviennent. On parle de racisme, on parle de.
Mais là, il y a un moyen concret, je veux dire, presque mathématique.
Ah ben là, je dirais qu'il y a pas beaucoup à réfléchir. Hein, encore ouais. une fois, voilà, si on veut si on veut mettre la main dans le feu pour voir ce que ça fait, ben voilà, ça va être réglé.
Eh oui, Ted Fred est en tournée pour aller se défouler. Vraiment, ça c'est un conseil qu'on vous donne. Par exemple, le 27 avril au Mans ou le 6 mai à Grenoble.
Voilà, puis derrière les présidentielles, il se passe d'autres choses. Il y a les législatives qui arrivent, ouais, donc je dirais qu'à un moment donné...
Oui, comme dirait l'autre, le combat continue.
Faut prendre une petite aspirine et puis voilà. on y repart.
Émeric Lompré.
Oui.
Émeric Lompré dit... Quelqu'un a écrit sur mon conducteur, dit le nulos.
Ouais,
je ne sais pas qui a écrit ça, c'est pas nul, cool. Approuvez-nous le contraire immédiatement.
Bonjour à tous. Vous allez bien ?
Ouais !
J'ai rien entendu !
Ouais !
Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, dis donc.
Ouais, au moins 15 jours.
Ouais, vous m'avez trop manqué.
Ouais, vous aussi.
Vous m'avez trop manqué. Juliette, tu m'as manqué. Charline, tu m'as manqué. L'invité, tu m'as manqué.
Merci.
Et Guillaume ? Bon. Alors, bon, pour cette chronique, là, je me suis dit, en fait, qu'en tant qu'humoriste, il faut se positionner. En fait, voilà, être humoriste, c'est pas seulement faire des blagues, c'est aussi donner son avis et être persuadé que c'est le bon. C'est Guillaume Meurice qui m'a dit ça. Et après, il a rajouté, tu verras, avec un petit peu d'ancienneté, t'es même plus obligé de faire des blagues. Oh, putain, il est chié, lui, avec l'argent des Français. Alors, voilà, je me mouille, je le dis, je me lance dans le grand bain, je prends pas de pincettes, je n'y vais pas avec le dos de la cuillère, je ne vais pas passer par quatre chemins, je n'ai plus de synonyme pour cette expression, mais c'est parti, voilà mes consignes de vote pour dimanche. Pour dimanche, il faut voter, attention, c'est un roulement de tambour mais de voiture. Si vous n'aimez pas l'humour, ne dégoûtez pas les autres. Alors, bon, c'est parti, pour dimanche, il faut voter Mélenchon. Faut voter Mélenchon. Faut voter Mélenchon. Je sais, c'est un peu tard, mais c'est parce qu'en fait, j'avais écrit la chronique samedi. Et du coup, depuis le résultat, je bois pour oublier. Alors, j'ai pas eu le temps d'écrire une autre. Au début, je me suis dit, tiens, je vais prendre une chronique à moi qui avait déjà super bien marché, mais j'en ai pas trouvé. Donc, non, mais c'est con, hein, super con. Je suis désolé parce que j'avais écrit un truc hyper engagé pour faire barrage à la droite. Là, ça va être un peu tard, tu vois. On peut pas faire barrage à un truc, en fait, que ça s'est déjà passé, quoi. C'est, imaginons, t'es un policier et tu fais un barrage à Soissons dans le sens des départs, et en fait, le malfrat, il est déjà en train de remonter la N62 au niveau de Mailly-sur-Rennes, et là, c'est complètement idiot. Oh, les gens de Picardie doivent être là. Mais non, mais il est con, lui. Parce qu'il y a une déviation. Ouais. Vous écoutez jamais Autoroute FM ou quoi? Putain, j'adore Autoroute FM. Génial. C'est, moi, mon rêve, c'est de faire des chroniques à Autoroute FM. Je te jure. À chaque fois, je les commencerai comme ça. Attention, le camion! Eh, c'est quand même con que Coluche ait jamais écouté Autoroute FM. Bon, non, alors, pardon. Non.
Bah, si, allez, bah, mais, pourquoi pas.
Non, mais Mélenchon.
Bah, oui,
mais allez, je termine, quoi. Non, mais Mélenchon, tain, j'y croyais à fond. Je te jure, j'y croyais. Je me suis réveillé dimanche matin, j'avais la sensation que tout était possible. T'sais, je suis sorti de mon lit en évitant de réveiller ma sœur parce que je vote à Lille. Et donc tout mon entourage me disait allez, on y va, on va voter Méluche, on va voter Méluche. Moi, j'étais vas-y, d'accord. Après, j'étais un peu triste pour Philippe Poutou. Du coup, j'ai appelé Philippe Poutou, j'ai dit Philippe, je suis désolé, j'ai voté Méluche. Il m'a dit ouais, moi aussi. Poutou, tu veux quand même voter pour toi, non? Il m'a dit oh non, galère, si je suis président, je perds mes allocs. Non, mais quand même là, Macron Le Pen, c'est la douche irlandaise là. C'est la douche écossaise. Je vois, j'en prends jamais. Mais non. Après, je m'en veux un petit peu. Je m'en veux un petit peu parce que je me dis c'est peut-être de ma faute. Comme je suis parti 3 semaines et les Français ils étaient perdus. Mais ouais, parce qu'à chaque fois les Français, je te jure, ils sont là. Emric, tes analyses. Emric, tes analyses. On dirait ma nouvelle copine. Et j'ai une nouvelle copine. J'avais une nouvelle copine parce qu'après je lui ai montré mes analyses. Les deux candidats que les Français ont choisis, c'est l'un qui veut supprimer la redevance et une qui veut privatiser l'audiovisuel public. Alerte maximale pour nous. Alors moi, je le dis une dernière fois au cas où il sera en route vers le QG de campagne. Attention, le camion. Merci de m'avoir écouté.
Émeric Lompré, qui joue les 19 et 20 mai au Sébastopol à...
Lille.
Évidemment, bien sûr. Christian Olivier avec nous. Tête raide. Qu'est-ce qu'on écouterait là, par exemple?
Face à face.
Ah, c'est ça, voilà. C'est un de vos titres, hein. J'ai bien l'impression. Ouais, carrément.
Il ressemble, en tout cas.
C'est bien fait, quand même. C'est cohérent, cette émission.
À nous les films sans bobine. Quelle heure sera-t-il quand on n'aura plus de corps? En pointillé, il est temps de s'offrir un gramme de solitude et quelques sourires encore. Dans les couloirs de nos sans-vie, les mots qui nous manquaient, ces phrases inachevées, quelquefois elle sortait de ses bouches, sa famille. De côte à côte, en face à face, toutes ces raisons qui nous dépassent, à trop vouloir trouver le sens, on en perd le pas de la danse. Se payer un flash de poésie en post-scriptum. Dans ces romans sans plus de mots, le son, l'image était coupé. Outre bleu terre délavé, quand sur la mer vient se coucher, les soleils a tout emporté. De côte à côte, en face à face, toutes ces raisons qui nous dépassent. À trop vouloir trouver le sens, on en perd le pas de la danse.
Tetraed, Face à Face, c'est le dernier album, le 15e, s'intitule Bing Bang Boom. Et avec cet album, vous êtes en tournée. Vous serez par exemple le 14 juillet au Festival des Vieilles Charrues et le 20 novembre à l'Olympia, ouais, à Paris.
Fin de tournée.
Eh ouais. Christian Olivier de Tetraed avec nous et à vos côtés, il y a c'est son jubilé, ces 15 jours, c'est Guillaume Meurice.
Bien sûr. Alors aujourd'hui, je propose de voir le bon côté des choses. Certes, c'est Macron contre Le Pen au second tour de la présidentielle, mais il y a une bonne nouvelle, le rapport du GIEC. Ça veut dire que même s'ils sont élus, de toute façon, on va crever. Dans 2 ans, dans 3 ans, on va crever bientôt. C'est cool, non? Yo, 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 yo. Comme dirait Aymeric Lompré et son co-auteur qu'il a trouvé sur Wish. Donc, bonne nouvelle. Alors, j'ai lu les programmes écolo de Macron et Le Pen. Ils sont vraiment écolo. Hein. Ils ont pas du tout gaspillé d'énergie pour en écrire. Ils sont vraiment écolo, écolo à fond. Le seul truc qui pourrait potentiellement nous sauver, c'est le peuple de France. Souvent, d'ailleurs, c'est ça. On est un peuple de scientifiques. Hein. On est le peuple de Pasteur, de Lavoisier, Didier Raoult, les frères Bogdanov, Michel Larocque, Juliette Binoche. On a cette culture de la science dure, hein, je dirais. Et je le sais parce que je suis allé dans la rue encore ce matin, et il y a plein de gens qui mériteraient d'être au GIEC, mais qui n'ont pas le temps, certainement d'autres activités à côté, et qui pensent même qu'on en fait un petit peu trop sur l'écologie.
Bien sûr qu'on en fait trop sur l'écologie.
Le rapport du GIEC dit qu'il nous reste 3 ans pour inverser la tendance, sinon l'humanité...
Qu'ils aillent se faire foutre.
Le GIEC?
Bien sûr. C'est pas parce que c'est scientifique qu'ils disent pas de conneries.
Est-ce que vous avez des diplômes un peu scientifiques pour étayer vos propos?
S'en fout, il n'y a pas besoin de diplôme. C'est des théories.
C'est des théories qui sont à foutre des diplômes, il n'y a pas besoin. Non mais c'est vrai que ça perd du temps de passer des diplômes, alors que c'est des théories comme ça qui sont accessibles sur YouTube, sur Twitter. Il suffit juste de suivre les bonnes personnes. Il y a Conspi 666, par exemple, qui a une belle analyse. Il y a Licorne du 74. C'est des scientifiques, c'est des gens qui travaillent. C'est comme, voilà, comme l'ensemble du peuple de France.
Bon, moi, je vais vous dire une chose. Le climat a changé pendant des siècles, on ne peut pas le savoir.
Le climat qui change là aujourd'hui, est-ce que c'est un cycle normal?
Un cycle normal, on ne peut pas le savoir.
Les scientifiques disent que non.
Moi, je dis personnellement, j'en sais rien.
Ben voilà. qu'est-ce que tu vas faire, le scientifique? Tu vas rien faire du tout, mon pote. Hein, moi, je dis personnellement que le réchauffement climatique, c'est un coup du lobby d'Agendas pour nous faire consommer des glaces. Qu'est-ce que tu vas faire, le scientifique? Tu vas rien faire. Voilà, l'hiver, c'est un coup du lobby du vin chaud. J'en dirai pas plus. Il y a des gens autour de cette table qui ont quand même gros à perdre dans cette histoire. Continuons, s'il vous plaît, avec ce même monsieur.
Ça veut dire que pendant des années, des volcanologues, on sait même pas si le comment. Le volcan, il va exploser. On n'en sait rien. On a payé des gens pendant des années. Et qu'est-ce qu'il y a de changé? Rien du tout.
Ah bah eux, ils s'occupent des volcans plutôt. Hein.
Ouais,
bah,
oui, vous voyez ce que je veux dire.
Pas trop là. Volcans, ouais.
Les volcans, la poussière, tout ça, ça peut faire quelque chose dans le climat.
Ça veut dire que le réchauffement climatique, ça serait dû aux volcans?
Bon, on peut pas le savoir.
On sait pas, mais on pourrait. Mais les volcanologues, ils branlent rien. Ils sont là toute la journée à se tripoter le magma. C'est quand même, c'est un. Arun Tazieff, prends l'argent, bordel! Un peu facile d'être mort comme ça pour se dédouaner, putain. De toute façon, l'écologie, ça nous saoule, tous.
Mais est-ce que c'est vraiment un sujet qu'il faut vraiment mettre en avant en ce moment?
L'écologie?
Oui, parce que l'économie est quand même plus importante.
Mais si la planète est plus habitable, alors est-ce qu'il y aura encore...
Oui, non, mais il y a des choix à faire.
Il y a des choix qu'il y aura à faire. Moi, je dirais l'économie plutôt que l'écologie, parce que à quoi ça sert d'avoir une apocalypse si on peut pas la filmer avec son iPhone? Non, mais c'est vrai que si on peut pas la foutre sur Instagram, ça sert à quoi? Ça va être joli, je pense, sur des belles avec un filtre sépia. Non, enfin bon, moi, je dis ça. Moi, j'ai hâte. En tout cas, j'ai hâte. Le problème de l'écologie, c'est quoi?
C'est un problème de conjoncture sur les problèmes économiques.
Est-ce que le problème de l'écologie, c'est pas justement le système économique?
Oui, tout ça est lié, bien sûr.
Est-ce que le problème, c'est pas le capitalisme?
Oui, non, mais alors là, vous êtes Karl Marx, vous, c'est pas possible.
Bah non, doucement avec les compliments, là, mon vieux. Oh là, non, attendez, non. Alors moi, j'ai rien contre le capitalisme vert, hein. Attention, j'adore les oxymores. Voilà, la joie de vivre parisienne, le corps s'accueillant. Oula, attends, qui a écrit ça sur ma feuille, bordel? Non, c'est Léo, c'est vous, c'est Léo Carman qui a écrit ça, qui est repassé sur ma chronique. C'est pas gentil. Si vous êtes corse et que vous écoutez, je comprendrais que vous soyez vraiment vexé, là, hein. Alors, vous pouvez aller, cramer l'appart de Léo, 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Cramez tout! C'est pas bon pour votre bilan carbone, mais ça vous soulagera. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'espoir, hein.
Moi, ça me dépasse, mais alors, grave. Je n'arrive pas à me projeter en disant, ça y est, on est foutu dans 3 ans, quoi.
Mais ça vous fait peur ou ça vous...
Pas du tout.
Bon. Non ?
On n'a pas peur. On n'a pas peur. On est des vieux, donc on n'a pas peur.
Bah ouais.
Vous êtes des vieux, donc vous vous en foutez ?
Oui. Bah ouais, voilà, c'est ça la solution.
Ah au moins c'est clair.
Mais au moins c'est clair. Pour les jeunes qui nous écoutent, soyez vieux. Regardez comme ils sont détendus, ils n'en ont rien à foutre. Ou alors, je ne sais pas, nous emmerdez pas avec les rapports du GIEC. Prenez une pina colada ou l'Exomil, fumez du Prozac. Prenez exemple sur vos aînés, ils sont quand même détentes.
Mais nous, on ne craint plus rien. On a bien mangé quand on était jeune, on n'a pas mangé de saleté.
Bah alors pour vos enfants quand même, ça vous inquiète pas?
Ben non, parce que je vois que mes enfants font très attention.
Ah ouais, mais si la planète est plus habitable, alors ça va être un peu galère.
Ah là 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 là, moi j'arrive pas du tout à croire ça.
Non, moi non plus, hein, mais je pense qu'on, voilà, comme nous tous, hein, on n'arrive pas, on a tous déménagé dans un pays qui s'appelle le déni, où on est bien dans le déni, on risque rien du tout. Et puis au pire, on se dit toujours, Le Pen ou Macron, ils seront là pour nous sauver. Allez, vivons heureux en attendant la fin du monde.
Guillaume Meurice, merci. Bah oui, dans les deux cas, Macron veut le septennat, donc il va rester 4 ans tout seul. Mmh. Et Marine Le Pen, elle a rien dit, elle va être 2 ans toute seule.
Voilà.
Mmh. Voilà.
Ouais.
Bon, on l'a laissé.
Oui.
Hein. Voilà.
Quand on entend ce qu'on entend.
Guillaume Meurice. Juliette Arnaud, vous avez un sujet à soumettre à Christian Olivier.
Oui, beaucoup plus gay. André Markovitch, auteur et traducteur de Dostoïevski, nous rappelle dans un article de Philosophie Magazine, celui du mois de mars, que dans la guerre en Ukraine se rejoue une vieille tradition russe, la confrontation entre la culture et le pouvoir. Et pourtant, la Russie est terre de poètes et de poétesses. Mais c'est vrai que comme ça, spontanément ces derniers jours, on a du mal à associer poésie et russe. Mais que diable, un petit effort, il s'agit juste de déconstruire et de se souvenir que l'art, avec un grand A, rime avec toutes les langues, tous les accents, ou presque.
Vous me rappelez étrangement une kleine petite bavaroise que j'ai très bien connue. Frida. Oh, belle femme. Elle fait maintenant un numéro sexy, comique à Munich. Bon, ce n'est pas très fin. Elle chevauche une banane géante en caoutchouc qui répondit partout sur la scène du cabaret. Le tout accompagné par des harpes. Ouais, c'est un peu vulgaire, hein? Mais on rigole en même temps. On se bourre des quiches, on boit des énormes pintes de bière et on finit en farandole, en hurlant des tyroliennes ou en vomissant partout. On ne regrette pas sa soirée.
C'est charmant. Je raffole ce genre de soirée.
C'était un extrait de Papy fait de la résistance de Jean-Marie Poiret. Vous avez entendu Jacques Villeray et Jacqueline Maillan. Cet article, donc, signé André Markovitch, qui est votre préfacier, et qui est voilà, le traducteur d'une partie des poèmes qui sont dans le livre, La Révolution au cœur. Et là, dans cet article, donc, il raconte cette espèce de tradition russe qui consiste à ce que le pouvoir essaye d'écrabouiller l'art ou toute forme d'art. Mmh. Et puis, il a quand même un point de vue sur Poutine qui est assez instructif. Il explique qu'il a entendu Poutine dire, objectivement, enfin, mot pour mot, le monde entier nous attaque, nous, la Russie, nous mourrons tous, mais nous irons au paradis. Mmh. Un petit peu exalté, un petit peu exalté, et je me suis et donc normalement exalté, c'est un mot qu'on accole au poète. Quel effet ça vous fait, vous?
C'est vrai que c'est un personnage quand même très troublant, on va dire, si on parle de Poutine. Jusqu'où il ira, etc. C'est vrai que bon, mon ami André Markovitch est vraiment mieux placé que moi pour en tout cas en parler. Mais c'est vrai qu'il y a comme si quelqu'un qui veut mourir d'une certaine manière, je sais pas, en martyr, etc. Enfin, il y a quelque chose
il ne veut pas être Saddam Hussein.
Mais après pour voilà, il y a cette histoire en tout cas de culture. Pour moi, c'est vraiment cette chose de tout temps. Enfin, je veux dire voilà, il pointe aussi l'histoire que c'est pas revenir à l'URSS, mais c'est revenir vraiment à l'Empire des Tsars, quoi. Je veux dire, on est encore sur une autre dimension. Et donc toujours cette histoire effectivement culturelle. Alors aujourd'hui effectivement sortir un bouquin, monter un spectacle sur de la langue russe. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a des spectacles russes qui sont annulés. Donc il y a tout malgré tout cet amalgame entre voilà cette langue qui est tellement magnifique, je veux dire à entendre, même si on parle pas un mot de russe, il y a une musicalité dans cette langue qui est tellement magnifique et faire entendre du russe. Et encore, on en parlait tout à l'heure, ces auteurs qui ont tous fini, soit au bagne, soit exécutés. Pour moi, il n'y a pas de voilà. Et aujourd'hui, prendre la route avec ce spectacle, je veux dire, et faire entendre. La langue russe, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui.
Ouais. Et puis, il y a un autre truc avec la poésie russe que moi, j'ai appris en lisant votre livre, c'est que en fait, elle se revendique, la poésie russe, de sa fraternité avec les non-poètes, avec les gens, tout simplement. Alors que dans la tradition française, depuis Rimbaud...
la poésie se détourne de la société, c'est ce que dit Markovitch.
Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que tous ces auteurs russes, bah, c'est le peuple quelque part, quoi. Voilà, c'est eux qui, puis c'est le contre-pouvoir de toute façon, puisque en Russie à l'époque, et on est en train de revenir à cette chose-là, puisque là, moi, je corresponds avec par exemple une batteuse avec qui je devais travailler sur le projet. La moitié de ses amis sont sous les verrous aujourd'hui, quoi. Donc c'est quelque chose de réel, quoi. Je veux dire, c'est vraiment. Mais voilà, donc aujourd'hui, pour moi, faire entendre cette voix-là, parce que voilà, on peut pas dire les Russes, c'est les Russes, c'est tous les Russes qui sont en Ukraine. Non, les Russes, il y a des gens qui font de la musique, qui font de la peinture, qui font tout un tas de choses, qui prennent des risques encore aujourd'hui énormes, parce que faut le savoir quand même. Et donc, faut soutenir cette chose-là aussi, quoi.
Et je rappelle que votre livre s'intitule La Révolution au cœur et aux des éditions Le Nouvel Attila. Léo Carman, la poésie du cinéma ou des séries?
Le derby, c'est un sport underground. Si vous avez besoin d'un règlement officiel pour jouer, vous avez rien à foutre ici.
On a le droit de se mordre !
Tant que je serai maire de Mézières, le roller derby, c'est terminé.
Chaussez vos rollers et montez sur le track parce que non, le roller derby n'est pas terminé, il continue, et plus fort encore avec la sortie de la saison 2 de Derby Girl, une série créée et réalisée par Nicolas Lange, co-écrite avec Thomas Mansuy et Fiona Lebgorin et produite par Barbara Maubert et Stéphane Moati. Pour celles et ceux qui n'ont pas roulé depuis longtemps, petit rappel des faits, en saison 1, Lola Bouvier, une ancienne championne de patinage artistique déchue, interprétée par Chloé Jouanet, décide de devenir la plus grande joueuse de roller derby de tous les temps en intégrant l'équipe de sa ville, les Cannibales Licornes. Problème, il s'avère que c'est la plus mauvaise équipe de France. Une tannée pour cette jeune femme délicieusement égocentrée, mais qui va finalement découvrir le bonheur du collectif et surtout à quel point le roller derby est bien plus qu'un sport. Inclusif, libertaire, féministe, progressiste, l'esprit derby est presque plus important que ses règles de jeu. Alors, quand au début de la saison 2, la nouvelle maire de la ville en interdit la pratique, c'est tout un mouvement culturel et sociétal qui se sent poussé au silence. Qu'à cela ne tienne, pour Lola et sa bande, il est temps de revenir aux origines de leur pratique. Elles créent le Derby Club, un parking souterrain qu'elles investissent pour jouer en toute illégalité. Et la première règle du Derby Club est « il est interdit de parler du Derby Club
». Pas tout péter. On va tout brûler. On va tout violer.
Les lois?
Oui.
Ah oui, ah, oui. On va violer les lois. C'est ça que je voulais dire.
Mais ouais, parce que les lois se durcissent tout au long de la saison. Si c'est d'abord leur stade qui leur est interdit, c'est ensuite leur sport, puis tout ce qui peut rouler pour s'amuser qui est proscrit par décret, par une politique prônant sécurité et retour au calme, pour mieux écarter les marginaux, les différents, ceux qui font tâche, dans le tableau Villefleurie tant fantasmé par cette nouvelle mairie. Évidemment, toute ressemblance avec une possible future réalité est purement fortuite. Que peut-on faire alors? Faut-il attendre l'arrivée d'un super-héros providentiel? Un élu qui nous sauvera seul de la catastrophe? Ou est-on toutes et tous les héros qui peuvent changer la donne? En plus de jouer clandestinement, les cannibales licornes entrent en résistance contre une politique qui ne les représente pas, mais aussi parfois contre une génération qui a peur du changement.
Enfin, Marie-Jo, regarde-toi! Tu me fais honte! Tu crois que ça ne fait pas du mal de te voir comme ça? Une mère ne devrait jamais avoir hué son enfant en public.
Mais t'étais là?
Bah oui, évidemment. La cœur de bœuf, c'était moi, j'étais obligée. Reprends-toi, Marie-Jo, hein, je te reconnais pas, là. C'est ça que tu veux pour ton avenir? Hein? Devenir une délinquante? Et après, c'est quoi, la drogue? Porter un bandana?
Si déjà la première saison était un véritable vent de fraîcheur dans le paysage de la comédie française, cette deuxième fournée d'épisodes pousse tous ses curseurs. L'humour y est encore plus barré et incisif, le rythme et la direction artistique pop nous rappellent l'ambiance à la fois décalée et exigeante de la trilogie Cornetto d'Edgar Wright, et le tout est finalement construit comme un thriller pour nous tenir en haleine jusqu'au bout et même parvenir, au moment où on s'y attend le moins, à nous émouvoir. Si les productions françaises cherchent souvent à réunir les publics en essayant de plaire à tout le monde, Derby Girl a cette force singulière d'assumer, de viser clairement son cœur de cible. C'est une série jeune adulte, de ses références à ses thématiques, pleinement dans son temps. Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent que connaître. Un temps qui change, bouscule, rebat les cartes, alors que le temps d'avant s'accroche à son passé et à sa colère.
Je pensais qu'en devenant adulte, j'allais perdre mes copines. Arrêter de jouer au derby. Être obligée de faire des trucs chiants, genre décrocher un CDI, faire mes courses le week-end, me balader en forêt. L'angoisse. Mais grâce à mes sauces, grâce à tout ce qu'on a vécu ensemble, j'ai capté le truc. Oui, on peut changer. Oui, on peut grandir. Mais sans se renier.
On peut grandir, mais sans se renier, devenir adulte, sans s'oublier, et continuer de se battre pour ses valeurs et pour une société qui nous ressemblerait plus. Alors allons-y, enfilons les coudières et les genouillères, remontons sur le track, le match n'est pas fini.
Oui. Léo Garman, merci. Bagarre. Rappelez-nous où on peut voir tout ça.
Alors sur France TV slash, c'est sur France Télévisions, c'est gratuit, c'est sur Internet et on peut accéder à tous les épisodes gratuitement.
Merci Léo Garman. Avec Christian Olivier de Tetraed, on aborde ce dernier thème que vous nous avez suggéré. Vous vouliez parler de sosie. Et bien justement, le sosie du président Zelensky a vite compris fin février que sa situation allait se compliquer. Et il a réussi à fuir l'Ukraine grâce à l'aide du sosie de Poutine et du sosie de Kim Jong-un. Ils se sont rencontrés sur le... Ils ne se sont pas rencontrés en fait. Ils ont participé à un même documentaire consacré aux sosies politiques. Et puis ils ont pris contact, une belle corporation qui entraîne des solidarités.
Vous êtes le sosie de Noiret ?
Ben d'habitude je fais Catherine Deneuve, mais là je sors d'une mauvaise grippe. Je plaisante là.
Pourquoi on est là ?
Parce qu'on a à parler tous les deux. Ça se finit toujours de la même façon. C'est toujours le même scénario. Regardez-moi bien mon petit Michel. Je suis Philippe Noiret. Au début, on se fait remplacer pour les corvées. Et puis un jour, on va trop loin. Et la clé n'entre plus dans la serrure. On s'est fait virer comme un malpropre.
C'est pas vrai, je suis pas le seul alors ?
Mais bien sûr que non, vous êtes pas le seul. Au début, moi, je vous dirais que ça m'arrangeait parce que ma femme commençait à m'emmerder sérieusement. Et puis après, on s'y fait.
Grosse fatigue, le film 2 est avec Michel Blanc donnant ici la réplique à Philippe Noiret. Article du Washington Post qui est relayé par le Huffington Post français donc, et le sosie de Zelensky qui s'appelle Oumid Izabaev était tout le temps suivi par des soldats russes qui voulaient l'emmener à Moscou pour qu'il diffuse de la propagande contre l'Ukraine. L'histoire est folle. Pourquoi c'est un thème que vous avez souhaité aborder, les sosies? Pourquoi donc?
Ça m'a toujours intrigué, questionné et fasciné un petit peu aussi parce que la vie de ces gens-là, quoi, voilà, c'est quelque chose qui doit être, enfin, je sais pas, le sosie de Johnny, le sosie de
une vie par procuration,
voilà,
vous
c'est,
voulez
dire, c'est, bah, quelque chose qui est et être dans cette peau-là, quoi, ça doit être vraiment quelque chose qui doit être, je sais pas, terrible en même temps, quoi. Et à l'époque, j'avais essayé de monter un projet que je vais peut-être aboutir à un moment donné, qui s'appelle les défaites de la musique. Voilà, parce que je voulais monter ce projet-là pour montrer d'autres formes de musique. Et dans les défaites de la musique, il y avait le concours du meilleur sosie. Voilà, et donc ça m'a fait penser à ça aussi. Quoi, voilà, quoi.
Mais alors là, il passe à l'action. C'est-à-dire que on peut dire que le sosie vive par procuration, mais là, il y a une véritable action. C'est-à-dire qu'ils ont fini par sauver l'un des leurs
en l'exfiltrant vers la Pologne.
Fou, ouais,
c'est carrément fou. Ouais.
Est-ce que les sosies proposent une autre réalité dans le fond?
Ben, j'ai l'impression, moi, qu'il y a quelque chose qui se joue quelque part. Des fois, on est même bluffé, j'ai envie de dire, enfin, quand on voit des choses. Et ça nous permet même d'approcher la personne réelle, peut-être différemment, j'ai envie de dire, quoi. Mmh. Voilà, enfin, quand je regarde un sosie de Johnny... quelque part, je vois un bout de Johnny, un vrai bout de Johnny chez le sosie, on va dire.
Il y a des vrais morceaux dedans, comme dans le yaourt.
Je trouve ça assez fascinant.
Très, très bien. Voilà. Et donc, le sosie de Kim Jong-un, qui vit en Asie, avait déjà aidé l'année dernière le sosie de Bruce Lee en Afghanistan. Lorsque le pays est tombé aux mains des talibans. Si, je vous assure, vous voyez. Donc voilà, l'écriture des choses. Alors, Juliette Arnaud, est-ce que vous auriez un questionnaire de par Jubi Proust pour notre invité?
Sur l'échelle du punk qui va de 0 à 10, 10 étant Joe Strummer du Clash, 0 étant Didier Barbelivien, à combien vous situez-vous?
Ah, c'est difficile, mais je vais dire, allez, je vais dire quand même, ouais, une bonne note quand même, je vais dire 8-5.
Ah, ça c'est une belle note. Voilà. On vous offre un chien, vous l'appelez comment? Donc ça sera un chien punk, ouais. Alors c'est ou Seringue, ou Ginette, ou Medef, pour pouvoir crier Medef au pied, coucou je panier, nous allons bombarder, mais dur.
Ouais, bah Ginette, j'en ai déjà croisé une de chienne, quoi, qui s'appelait Ginette, donc j'ai peut-être... Medef c'est pas mal, ouais.
Medef,
Medef c'est bien, ouais.
Sid Vicious, du Sex Pistols, avait fait une reprise de My Way.
Ouais.
Quelle chanson française mérite une reprise punk, 1 minute 30, guitare saturée, hurler plus que chanter? Boom de Traîner, une chanson douce d'Henri Salvador ou le chant des partisans?
Ouais, bah...
Ou une
ouais,
autre
ouais, non, bah là, dans les propositions, Salvador, ouais, un petit...
Hein
voilà, un petit Salvador, ouais,
ouais,
en punk.
Ça fait une bonne dernière chanson de concert. Vous aviez fait rechanter Jeanne Moreau. Quelle autre comédienne pourriez-vous aller chercher pour chanter à nouveau?
En comédienne, depuis, j'ai rechanté avec une autre Moreau qui est Yolande Moreau.
Ouais.
Mais,
Catherine
donc je sais pas s'il y a une autre Moreau qui existe encore, mais... Mais Catherine Deneuve, pourquoi pas. Mais
Corinne Maciéreau,
pourquoi pas non plus.
Plus technique, Véronique Jeunesse.
Ouais, mais peut-être, peut-être une chorale, quoi, là, pour le coup. Ah. Quoi, voilà, une chorale.
Chorale de comédienne.
Voilà.
Ok. Si vous deviez renommer Tête Raide avec d'autres têtes, est-ce que ça serait les grosses têtes, les têtes dans les culs, ou les têtes à claque? Normalement, c'est nous, mais on veut bien vous accueillir.
Ouais. Je dois choisir dans les trois ou.
Ouais, ou si vous voulez inventer autre chose.
Ouais, bah, je vais aller sur les têtes à claque, moi.
Les têtes à claque.
Ouais, c'est bien, c'est rigolo.
Vous vous appelez Christian Olivier. Si vous étiez un acteur, vous seriez plus Christian Clavier, comédie Tu es mamie, ou Laurence Olivier, tragédie Mon ami.
Ouais, je vais aller sur Laurence Olivier. C'est ma sœur s'appelle Laurence Olivier, donc voilà. On
non,
y va.
Sérieux. Vous êtes né à Bamako. Si vous pouviez partir en vacances à Bamako avec un ou une personnalité politique, vivante ou morte, vous choisissez qui?
Bah, à Bamako, là, je viens de recroiser. Mon ami sénégalais Omar Penn, et j'irais bien faire une petite virée à Bamako avec lui.
Allez. Christian Olivier de Tête Raide qui est en tournée avec le 15e album qui s'appelle Bing Bang Boom, et puis le livre La Révolution au cœur paru au Nouvel Attila. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
C'était un plaisir. Merci les amis. Léo Carman, merci Guillaume, merci Juliette, merci Emeric.
C'est pas la peine, Emeric.
C'est la fin de cette émission. Je vous dis à demain. Je laisse les clés de la boutique à Alex et Juliette.
Bon, alors, j'ai fait une marque sur toutes les bouteilles d'alcool pour noter le niveau. J'ai mis un code sur les chaînes porno de la télé. J'ai relevé les kilomètres sur la voiture. Je sais exactement combien il y a sur les comptes en banque.
Et voilà. Ah oui, bah si, les enfants.